Bonjour à tous ceux que j'ai pas vus. On dit toujours, faut pas dire bonjour au moment de la prédication. Mais comme je vous ai pas vu depuis un certain temps, moi je vous dis bonjour. Alors c'est les vacances, ce sont les vacances. Donc c'est l'occasion de peut-être de partir en voyage pour certains, que ce soit par la voiture, que ce soit par le train, que ce soit par l'avion, selon la distance où l'on va. Est-ce que certains ont déjà pris l'avion? Plusieurs ont déjà pris l'avion, j'imagine. Oui, voilà. Qu'est-ce qui vous rassure quand vous prenez l'avion? Hein? Qu'est-ce qui vous assure d'arriver à destination? Imaginez que vous appreniez que ce soit un passager qui soit aux commandes de l'appareil. Est-ce que vous seriez rassuré? Imaginez que si vous prenez le train, vous savez que c'est un enfant de 5 ans qu'on met aux commandes. Ça vous rassurerait? Non. Hein? Donc, quel que soit le moyen de transport que l'on prend, ce qui nous rassure dans le fait d'arriver à destination, c'est de savoir que la personne qui est aux commandes est une personne qui est compétente, qui connaît son métier, qui connaît l'appareil, qui sait où elle va. Ce qui nous rassure, c'est de savoir, par exemple, si on prend l'avion et que si on traverse un moment de turbulence, ben là, justement, ça nous rassure de savoir qu'il y a un pilote qui connaît son affaire aux commandes. Parce que quand même, quand on est dans une zone de turbulence, même si on sait que la personne qui est aux commandes est compétente, on peut aussi douter. On peut se dire, waouh, est-ce que combien de temps ça va durer? Je ne suis pas forcément vraiment tranquille. Et la vie aussi, ça peut s'apparenter à cela. La vie, dans la vie, ben, on traverse des moments de turbulence, des moments où il y a des événements qui ne sont pas forcément faciles, même difficiles, des moments qui peuvent être douloureux, malheureux, et à tel point parfois qu'on peut se demander, mais waouh, est-ce qu'il y a quelqu'un aux commandes? Est-ce que je vais arriver à destination? Alors pour des personnes qui ne croient pas en Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, ça peut être vraiment compliqué justement quand on est dans des événements comme ça. Mais même quand on connaît Dieu, on peut, dans l'épreuve, on peut, dans ces moments de turbulence, se demander, mais est-ce que Dieu est vraiment aux commandes? Est-ce qu'il est vraiment aux commandes? Et c'est de ça dont je voudrais parler ce matin. Dieu est-il aux commandes? Dieu est-il vraiment aux commandes? Peut-être que tu as eu une année compliquée, avec différents défis, une année qui a été éprouvante, et où tu as pu te demander, mais waouh, mais Dieu, il est vraiment aux commandes là? Peut-être que tu as traversé des moments bien avant où tu as vécu ce genre de choses. Peut-être que tu as une année qui se prépare devant toi avec de nombreux défis et où tu te dis, waouh, est-ce que Dieu va être aux commandes? Tu regardes l'actualité et tu vois comment les événements se déroulent, toutes les conflits qu'il peut y avoir dans ce monde, qui font que parfois certains se demandent, mais franchement, mais s'il y a autant de souffrances, mais est-ce qu'il y a vraiment un Dieu? Et peut-être tu peux te demander, mais est-ce que toi qui crois en Dieu, mais est-ce que vraiment Dieu est aux commandes de ce monde, vu tout ce qui se passe? Et je voudrais ce matin parler d'un homme, prendre l'exemple d'un homme qui a dû, je crois, se poser ces questions. Qui a dû se poser ces questions. Cet homme, c'est Élie, le prophète. Un homme qui a vécu à un moment qui était vraiment compliqué pour le royaume d'Israël, pour le culte rendu à l'Éternel, et en particulier pour les prophètes. Parce que c'était un moment où le roi d'Israël, qui s'appelait Achab, avait épousé une reine, Jézabel, qui était phénicienne, et qui adorait d'autres dieux que l'Éternel, des dieux qu'on appelait les Baals. Et il se trouve qu'elle avait ordonné d'exterminer tous les prophètes qui servaient encore l'Éternel. Donc on cachait les prophètes. Et le résultat, c'était que beaucoup en Israël la plupart ne suivaient plus l'Éternel, mais se mettaient à adorer les Baals. Et Élie se retrouve à ce moment-là. Élie, avant que je vous parle de ce moment de découragement qu'il a vécu, Élie a vécu des moments, mais vraiment forts, dans la présence de Dieu et des moments de victoire. Et notamment, dans cette situation, il met Israël devant un défi. Il leur dit, mais maintenant, choisissez. Maintenant, vous choisissez soit vous suivez l'Éternel, soit vous suivez Baal. Mais vous ne pouvez pas faire l'un ou l'autre. Vous choisissez. Et ça va être à tel point qu'il va les mettre devant un défi au travers des prophètes de Baal en leur disant, construisez un autel et moi aussi je vais construire un autel et chacun nous allons invoquer notre Dieu et le Dieu qui se manifeste par le feu, c'est celui qui sera considéré comme reconnu comme le seul vrai Dieu. Et donc les prophètes de Baal vont relever le défi, ils vont le faire, ils vont construire leur autel et ils vont invoquer leur Dieu en faisant des danses, etc. Mais Baal ne répond pas, alors ils vont se taillader la peau, mais Baal ne répond toujours pas. Et finalement, Baal ne répondra jamais. Est-ce qu'il existe ce Baal ? Tandis que quand Élie va construire un autel, il va redoubler la difficulté en disant, mais voilà, mettez de l'eau, des trompes d'eau, vraiment une grande quantité d'eau, et qu'il va sacrifier sur cet autel, là, le feu de Dieu va descendre du ciel et consumer l'autel. Waouh, c'est vraiment l'effervescence. Et là, Israël va dire, mais oui, c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. Plusieurs vont le dire en tout cas. Plusieurs vont le dire. Et pourtant, malgré cet exploit, quand le roi Achab va dire à Jézabel ce qui s'est passé, et que Jézabel va dire à Élie, au chapitre 19, « Que les dieux me fassent de terribles choses, et pire encore, si à cette heure demain, je ne prends pas ta vie comme tu as pris la leur. » À cette menace, Élie, qui pourtant a été dans le triomphe avec Dieu, va prendre peur et va s'enfuir dans le désert pour sauver sa vie. Dieu est-il vraiment aux commandes ? Dieu est-il vraiment aux commandes de ma vie ? Dieu est-il vraiment aux commandes du plan du salut pour Israël ? Dieu va-t-il vraiment sauver son peuple ? Vu ce qui se passe là, sans doute que c'était toutes les questions qui traversaient Élie et qui peuvent nous traverser quand nous passons par une zone de turbulence. Et je vais lire la suite du texte. C'est à partir de la moitié du verset 3. Donc en fait, Élie s'enfuit pour sauver sa vie, il s'enfuit dans le désert, et lorsqu'il arriva à Beersheba, en Juda, il y laissa son serviteur. Et lui continua un jour de plus dans le désert, jusqu'à ce qu'il arrive à un genêt. Il s'assit dessous et pria pour sa mort. « Assez !» dit-il. « Maintenant, Éternel, prends ma vie, je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Puis il s'étendit sous le genêt et s'endormit. Et voilà où est Élie après cet exploit. C'est vraiment surprenant. C'est vraiment surprenant. Pourquoi est-ce qu'Élie réagit comme ça alors qu'il a été dans la victoire avant ? Pourquoi est-ce qu'il a peur de cette reine alors qu'il a vu le feu de Dieu ? Le feu de Dieu descendre du ciel et consumer l'autel. Je crois que Élie s'attendait à autre chose que ce qu'il a vu. Je crois que les circonstances n'ont pas été celles que Élie attendait. Élie s'attendait qu'après un événement de cette ampleur, avec ce feu qui descend du ciel, mais ce soit tout Israël qu'il se tourne enfin vers l'Éternel. Surtout plusieurs avaient dit, mais l'Éternel est vraiment le seul vrai Dieu. Mais Élie ne voit pas cela. Et quand la parole, la menace de Jézabel vient, là, Élie ne sait plus quoi croire. Il perd tous ses moyens. Il part dans la solitude. Il dit à son serviteur de le quitter. Élie se retrouve seul. Et il va trouver l'ombre d'un genêt sous ce soleil écrasant du désert. Je sais pas si vous avez vu ce que c'est un genêt, un buisson, le buisson du genêt. Hein. En fait, ce sont des tiges qui sont longues, qui sont assez rigides. On l'utilisait à l'époque pour faire des balais. Et il n'y a pas vraiment beaucoup d'ombre, quoi. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'ombre. Si on veut trouver de l'ombre, ce n'est pas sous un genêt que l'on va. Donc, c'est pour vous dire la précarité, la situation d'Élie. Vraiment, pour vous dire à quel point où il en était. Et le genêt, si vous avez déjà mangé des racines de genêt, si un jour vous en mangez, on peut manger les racines de genêt, mais c'est super amer. C'est vraiment très amer. Il y en a qui n'aiment pas les endives. Alors, ceux qui n'aiment pas les endives, eh ben c'est pire le genêt. Voilà. Et en fait, le genêt est le symbole de l'amertume. Élie est en train de s'enfoncer dans la solitude et l'amertume. Et parfois, effectivement, c'est la première partie de le premier point de ce message. Quand les circonstances ne se passent pas comme nous le désirons, nous pouvons être profondément découragés et nous demander si Dieu est aux commandes. Peut-être tu as passé une année où, par exemple, tu as du mal à joindre les deux bouts. Hein. Tu essayes de faire ce qu'il faut, mais c'est compliqué de payer les factures et tu te dis, mais comment je vais payer cette facture ? Et comment je vais payer la suivante ? Et peut-être tu arrives là dans ce temps de vacances où tu te demandes, mais comment je vais faire l'année prochaine ? Nous avons, avec Estelle, vécu une période où nous, on se demandait comment on allait payer nos factures. C'était au début où je faisais mes études à l'école biblique. Même si on était soutenu par l'Église, avec une famille de cinq, il y a des moments, on se demandait comment on allait faire et comment on allait faire pour payer telle somme qui s'annonçait. Voilà, il y a des circonstances que nous ne voulons pas, mais qui sont là, et on peut être découragé. Je pense à, peut-être que tu peux avoir un trait de caractère, par exemple, un trait de caractère ou un comportement, tu aimerais que ça cède, tu aimerais que ça s'arrête, tu fais que de prier, et tu vois pas que ça change, et ça te décourage. Ou peut-être tu es malade, dans une maladie, tu pries, tu attends la guérison, et tu ne vois rien venir. Ou tu connais quelqu'un qui est dans cette situation et tu pries pour cette personne et tu ne vois rien venir. Et ça peut être décourageant. Peut-être tu pries pour des personnes que tu as autour de toi dont tu te sens proche. Par exemple, tu es parent et tu pries pour tes enfants pour qu'ils trouvent la foi, pour qu'ils trouvent Dieu. Ce sont par exemple des adolescents. Par exemple, tu es un parent seul avec tes ados. C'est encore plus compliqué. Et voilà, et tu ne vois rien venir. Ou alors tu pries pour d'autres personnes qui sont importantes pour toi, que tu as à cœur. Tu pries pour qu'elles rencontrent le Seigneur et tu ne vois rien bouger. Moi, j'ai longtemps prié pour mon père comme ça. J'ai longtemps prié pour mon père et à chaque fois que j'essayais de parler de Dieu, c'était impossible. Impossible. C'était un sujet tellement délicat, tellement sensible, on ne pouvait pas y toucher. Et à chaque fois, je me cassais les dents. À chaque fois. Et je me demandais, mais je prie, je vois rien. Je vois rien qui se passe, quoi. Et ça peut être des situations profondément décourageantes. Je pense à une personne qui s'appelle Jacqueline, qui n'est pas dans cette église, et qui était malade quand elle s'est convertie déjà, une maladie qui faisait qu'elle ne pouvait pas marcher et qu'elle avait de grandes douleurs. Et pourtant, elle servait le Seigneur. Et quand elle voyait des chrétiens qui n'avaient pas forcément une vie chrétienne sérieuse, elle se disait, mais Seigneur, mais pourquoi moi je te sers, mais pourquoi lui, voilà, il ne te sert pas et lui il marche, lui il est en bonne santé, pourquoi ? Et ça pouvait être un découragement important. Je pense à un autre témoignage d'une personne qui s'appelle Linda, qui a toujours rêvé enfant de devenir médecin. Et quand à 14 ans, elle est tombée gravement malade d'une maladie chronique. Elle a dû aller tout le temps à l'hôpital. Elle a fait des méningites et elle a fait des comas. Et donc, impossible de suivre des études de médecine. Et donc là, c'est compliqué. Ça peut être compliqué. Autant de autant de situations qui peuvent amener parce que ces circonstances ne sont pas celles que l'on veut et l'on ne comprend pas pourquoi ça se passe comme ça, qui peuvent amener un profond découragement. Mais on le voit avec Élie, pourtant Dieu est là. Pourtant, vraiment, Dieu est là. Et on peut le lire avec Élie si on lit la suite. À partir du verset, donc il s'est endormi sous le genêt. Soudain, c'est dans le verset 5, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange ». Il regarda et là, près de sa tête, se trouvait un gâteau cuit sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis s'étendit de nouveau. L'ange revint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi et mange, sinon le voyage sera trop long pour toi ». Il se leva, mangea et but, et avec la force de ce repas, il voyagea 40 jours et 40 nuits jusqu'à ce qu'il atteigne Horeb, la montagne de Dieu. C'est aussi l'autre nom pour le mont Sinaï. Et Dieu est là. Les circonstances ne se passent pas comme Élie l'aurait attendu. Pourtant, Dieu est là, il veille. Pourtant, Dieu continue de veiller sur notre vie et veut nous aider à traverser l'épreuve de circonstances que nous ne voulons pas. Dieu ne va pas effectivement changer les circonstances comme nous le souhaiterions, mais ça ne l'empêche pas d'agir. Dieu ne change pas là la situation d'Élie. En tout cas, il ne change pas la situation du peuple d'Israël comme Élie l'aurait souhaité. Mais il intervient dans la vie d'Élie avec un ange. On ne sait pas, est-ce que c'était un être céleste? Est-ce que c'était un homme? Voilà, on ne sait pas. Mais en tout cas, Dieu a divers moyens pour intervenir. Et cet ange intervient une première fois pour qu'Élie ne meure pas. Parce qu'il est sous le soleil du désert. Il est seul. S'il ne mange pas, il meurt. Donc, il mange une première fois et là, il va pouvoir reprendre des forces. Et ensuite, l'ange revient, il mange une deuxième fois et il y mange une deuxième fois pour, cette fois-ci, sortir du désert et se retrouver dans le mont Horeb où il va pouvoir trouver une caverne. Et là, il va être à l'abri parce que s'il reste dans ce désert, il va mourir. Si nous restons dans le découragement, nous pouvons vivre une mort spirituelle. Mais quel est le sens de ma vie? Quel est le sens de l'existence? Mais Dieu est-il vraiment aux commandes? Mais à quoi ça sert de continuer? Et on peut être dans cet état profondément, on est profondément mal. Et pourtant, Dieu continue de veiller, Dieu est là. Peut-être que tu es dans une situation comme ça compliquée, et tu n'as pas vu le sourire de cette personne qui était là pour te redonner des forces. Nous, à un moment, justement, quand on était avec ces complications d'argent, bah, à un moment, comme par hasard, il y avait une somme qui arrivait au moment où il fallait. Notre situation globale n'était pas réglée, mais qu'est-ce que ça faisait du bien. Ou alors quelqu'un nous faisait des courses. Ou alors aussi, et ça fait partie de l'aide de Dieu, bah, à un moment, moi, je suis allé chercher un travail en plus, en étant veilleur dans un centre pour toxicomanes, même en allant faire des travaux agricoles à un moment. Et ça aussi, c'était l'aide de Dieu, parce que ce réseau, c'est Dieu qui me le donnait. Ces contacts, c'est Dieu qui me le donnait. Le nom de l'association d'aide alimentaire à un moment à laquelle on s'est adressé, c'est Dieu qui a fait qu'on la connaisse. Et tout ça, c'est l'aide de Dieu. Cette personne dont je vous parlais, Jacqueline, qui est donc dans cette maladie avec des douleurs depuis longtemps, a pu témoigner aussi que même si Dieu ne l'a pas guérie de cette maladie, les douleurs ne sont pas parties, à un moment, elle a contracté ce qu'on appelle le lupus. C'est une maladie en fait auto-immune, c'est-à-dire votre système immunitaire, en fait, il vient contre vous, quoi. Il s'en prend à vous. Et elle a dit au médecin, mais vous allez voir, je vais guérir du lupus. Et le médecin se demandait ce qu'elle leur disait. Et puis à un moment, les médecins ont vu avec les résultats qu'il n'y avait plus rien. Là, elle leur a dit, vous voyez, je vous avais dit que Dieu me guérirait. Elle a été délivrée de l'alcool, elle a été délivrée du tabagisme. Et à un moment, elle a pu marcher. Même si elle était toujours malade, même si les douleurs étaient toujours là. Je priais pour mon père. Je priais pour mon père pour qu'il ouvre son cœur à Dieu. Et mon père est tombé malade. En fait, il a ouvert son cœur à Dieu à la fin de sa vie, quand il est tombé malade. Et j'ai prié pour qu'il guérisse. Il n'est pas guéri, mais il avait ouvert son cœur à Dieu. Voilà, donc en tout cas, il y a une volonté de Dieu qui s'accomplissait là. Donc effectivement, même si nos circonstances ne changent pas, Dieu est là pour nous aider à traverser ces turbulences. Mais alors pourquoi Dieu ne change pas les circonstances? Ça, on peut se poser la question. Pourquoi Dieu ne change pas nos circonstances quand elles sont difficiles, alors que l'on prie, alors qu'on lui demande? Et à partir de ce qu'a vécu Élie, je vais revenir sur l'histoire d'Élie. Voilà ce que l'on peut dire. Si Dieu ne change pas nos circonstances comme nous le voulons, c'est qu'il préfère que nous le suivions pour qui il est, plus que pour ce qu'il fait. Si vous regardez Élie, mais on va lire ce qui se passe pour Élie quand il arrive dans cette montagne de Dieu, à la rencontre de Dieu. Là, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Puis la parole de l'Éternel lui fut adressée. Il lui dit: Que fais-tu ici, Élie? Il répondit: J'ai été très zélé pour l'Éternel, Dieu des armées, car le peuple d'Israël a abandonné ton alliance, abattu tes autels et passé tes prophètes au fil de l'épée. Et maintenant, je suis le seul qui reste et ils me poursuivent pour me faire périr aussi. Israël voulait tuer aussi Élie, alors qu'il y avait ce feu du ciel qui était tombé. Il dit, Dieu dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et immédiatement l'Éternel passa. Une forte rafale déchira la montagne et brisa les rochers en morceaux devant l'Éternel. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Après, le vent vint, un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, le feu se déclencha, mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu vint une voix calme et feutrée. Un doux murmure, dans d'autres versions. Lorsqu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Puis une voix vint à lui et dit: Que fais-tu ici, Élie? Et là, Élie va dire la même réponse. J'ai été très zélé pour l'Éternel, Dieu des armées, car le peuple d'Israël a abandonné ton alliance, abattu tes autels et passé tes prophètes au fil de l'épée. Et maintenant, je suis le seul qui reste. Et ils me poursuivent pour me faire aussi périr. Élie redit la même chose, mais il n'est pas dans le même état de cœur. On va le voir par la suite. Mais ce que l'on voit, ce que l'on comprend, qu'est-ce que fait Dieu avec Élie? Dieu amène Élie à cet endroit. Si Élie est dans le découragement, il y est aussi pour quelque chose. Il y est aussi pour quelque chose parce que, et d'ailleurs, Dieu lui demande: Que fais-tu là? Que fais-tu là? Et souvent, dans ces moments où nous sommes dans l'épreuve, où Dieu ne change pas les circonstances comme nous le voudrions, Dieu nous demande: Mais que fais-tu là? Qu'est-ce qui se passe pour toi dans ton cœur? Parce qu'effectivement, on peut se demander: Mais Dieu est-il vraiment aux commandes? Mais Dieu est-il bon? Et il y a tout cela qui peut se passer dans le cœur. Élie avait une fausse compréhension de la puissance de Dieu. Et c'est cela qui se passe. C'est cela que Dieu est en train de lui révéler. Élie avait une fausse compréhension de la puissance de Dieu. Il croyait que c'est ce qu'il avait fait, lui, et ce que Dieu avait fait avec ce feu tombé du ciel qui allait tout changer. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Ce n'était pas le plan de Dieu. Et Dieu lui montre: Non, il n'est pas dans le tremblement de terre, il n'est pas dans ce vent violent, il n'est pas dans le feu. Il est dans ce doux murmure. Et vous savez ce que c'est que ce doux murmure? Ce doux murmure, oui, c'est le Saint-Esprit, mais c'est une image de ce que Jésus a fait. C'est une image de Jésus. Le doux murmure. Dieu, voilà où est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est dans un doux murmure. La puissance de Dieu est dans le sacrifice d'un homme qui est mort pour nous et qui est ressuscité parce qu'il est Dieu et qui est venu changer la face du monde. Là où Israël aurait pu attendre à ce que Dieu intervienne avec perte et fracas pour le délivrer de l'envahisseur romain, là où Élie aurait pu attendre que Dieu intervienne avec perte et fracas pour que voilà, la situation d'Israël soit rétablie comme ça, là où nous pourrions attendre que Dieu intervienne comme ça dans notre vie. Et parfois, oui, il le fait, mais pas toujours. Et souvent, il y a des circonstances que nous vivons. Et qu'est-ce que Dieu est en train de vous faire rencontrer ? C'est son doux murmure, l'amour de Christ. C'est l'amour de Christ qui vient nous remplir. Dieu est en train d'utiliser l'épreuve pour nous remplir de cet amour de Jésus, de cet amour de Christ. Quand on était dans ces difficultés financières, heureusement que Dieu n'est pas intervenu systématiquement, nous avons et nous savions que Dieu est un Dieu qui pourvoit, mais nous l'avons d'autant plus expérimenté. Mais c'est aussi un Dieu qui... Dieu ne fait pas, Dieu est fait aussi avec nous. Et Dieu a fait avec nous. Nous avons aussi utilisé notre responsabilité et la chose profonde que nous avons pu comprendre, c'est de voir quel est l'essentiel. Et l'essentiel, ce sont les richesses célestes, plus que les richesses matérielles. Voilà une pensée de Dieu que Dieu est venu ancrer en nous au travers de cela. Oui, mon père n'est pas guéri. Il n'est pas guéri quand j'ai prié que cette tumeur parte et que voilà, il puisse louer le Seigneur pour cela. Mais avant de mourir, il a pu venir me dire, je voudrais, Nicolas, je voudrais parler de Dieu avec toi. Là où jamais il voulait en parler. Il a pu me dire, c'est toi qui avais raison. Mon père ouvrait son cœur à Dieu. Oui, il est mort. Mais il est vivant. Cette femme dont je vous parlais, Jacqueline, à un moment, on lui a demandé, mais qu'est-ce que ça te fait de voir que d'autres personnes ont prié pour elle et elles guérissent, et toi, tu n'es pas guérie. Et parce que cette personne cultive l'amour de Dieu, elle cultive l'amour de Christ. Elle a pu dire, mais moi je suis heureuse finalement pour ces personnes. Et elle a pu dire, et je crois que ça fait plaisir à Dieu de savoir qu'on peut lui faire confiance, même quand les circonstances ne changent pas comme nous le voudrions. Ça fait plaisir à Dieu de voir que nous nous accrochons à lui, même si son plan ne se passe pas comme nous voudrions qu'il se passe. Mais ça ne veut pas dire que son plan ne se passe pas comme lui le souhaite, à notre bénéfice. Cette personne, Linda, qui voulait être médecin, finalement, elle a pu toujours être enjouée, même si elle vivait des difficultés, tellement elle était proche, elle cultivait cette présence de Dieu. Et à un moment, elle a pu dire, alors, en fait, je n'ai pas été au service de Dieu comme médecin dans cet hôpital, mais j'ai pu parler aux uns et aux autres autour de moi, et j'ai été au service de Dieu en tant que patiente. Waouh. Et ça, c'est le doux murmure. Ça, c'est le doux murmure. Oui, il y a des situations qui peuvent être compliquées, difficiles, dans notre corps, dans notre âme, mais nous avons un esprit. Nous avons un esprit. Un esprit qui est régénéré par Jésus quand nous l'accueillons. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Élie ? Pour te boucler la boucle. L'Éternel lui dit, à partir du verset 15, après que Élie ait répété la raison pour laquelle il est là, l'Éternel lui dit, et là, cette fois-ci, Élie peut l'entendre. Retourne par le chemin du désert de Damas. Lorsque tu y arriveras, tu oindras Hazaël, roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Avel-Mérola, comme prophète après toi. Jéhu fera périr quiconque échappera à l'épée de Hazaël, et Élisée fera périr quiconque échappera à l'épée de Jéhu. Cependant, j'en épargnerai 7000 en Israël, tout genou qui n'aura pas plié devant Baal et toute bouche qui ne l'aura pas embrassé. Et là, Dieu dit à Élie ce que Élie n'a pas vu, c'est 7000 qu'il réserve. Et sans doute que ce qu'Élie a fait avec ce duel contre les prophètes de Baal, il a joué dans ce qui se passe là, dans ces 7000. Mais la réussite du plan du salut de Dieu repose sur Dieu. La réussite du plan de Dieu dans nos vies repose sur Dieu. Il ne repose pas sur nos réussites ou nos échecs. Il repose sur Dieu. Et alors, Élie est remotivé par Dieu, il répond à l'appel et il part pour oindre Hazaël, roi de Syrie. Il part pour oindre Jéhu, roi d'Israël, et pour oindre Élisée, le prophète, à sa suite. C'est-à-dire des personnes qui ont des rôles clés dans l'histoire et qui vont être des instruments de Dieu pour l'accomplissement de son plan. Et là, en fait, Élie accepte que oui, vraiment, Dieu est aux commandes. Dieu est le maître de l'histoire avec un grand H. Et le maître de son histoire. Dieu est le maître de notre histoire. À partir du moment où nous voulons rester dans son plan, et Élie, de nouveau, peut rentrer dans son plan parce qu'il a laissé, il a ouvert son cœur à Dieu et qu'il a laissé Dieu transformer ses pensées, ses fausses compréhensions, tout ce qui n'était pas juste pour rectifier cela. Et du coup, Élie peut de nouveau rentrer dans ce plan. Mais remarquez qu'en fait, quand vous lisez la suite, ce n'est pas Élie qui va oindre Hazaël, ce n'est pas Élie qui va oindre Jéhu. Élie ne va faire que oindre Élisée, et c'est Élisée qui va oindre Jéhu et qui va oindre Hazaël. Comme quoi, la réussite du plan de Dieu dépend de Dieu. C'est lui qui est le maître de l'histoire et c'est lui qui est le maître de ton histoire. Et Dieu est vraiment aux commandes de ta vie. Il est aux commandes de ta vie et il est aux commandes de ce monde selon son plan. Selon son plan. Et Dieu t'aime même si tu ne vois pas les circonstances changer. Il veille sur toi au travers de différents signes, de différentes manières. Dieu, peut-être ce matin, Dieu veut te montrer qui il est vraiment. Là où tu as pu justement être découragé. Et voilà, ça arrive, il n'y a pas de mal à ça. Mais le découragement peut t'entraîner effectivement dans un éloignement, peut t'entraîner dans une mort spirituelle. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Il amène son ange. Il vient te nourrir de sa parole. Il vient te montrer qui il est vraiment. Il veut te montrer qu'il est toujours aux commandes, selon son plan, même si les circonstances peuvent te suggérer le contraire. Il veut te remotiver pour son plan, dont la réussite dépend de lui. Amen. Amen. Prions. Seigneur, tu connais nos vies, tu connais les situations dans lesquelles nous sommes les uns les autres, les différents défis que nous rencontrons. Et tu sais l'impact que ces défis peuvent avoir sur nos vies. Tu sais peut-être le découragement dans lequel ça a pu amener certains qui sont ici, ou des personnes que nous avons à cœur, que nous connaissons dans nos vies. Des personnes qui peut-être ne te connaissent pas. Et Seigneur, nous prions pour ces personnes. Nous prions pour qu'elles voient la lumière que tu es. Qu'elles puissent voir cet ange que tu envoies. Qu'elles puissent voir ce sourire, qu'elles puissent voir ce soutien que tu amènes par entre guillemets, de simples miracles. Pas des choses tonitruantes, mais là où il y a ton doux murmure, ton amour qui est là. Seigneur, je te remets toutes les personnes qui peuvent avoir une situation de découragement parmi nous. Vraiment, Seigneur, je te remercie que tu ouvres les cœurs. Tu viens dire, mais que fais-tu là? Où en es-tu? Où en es-tu avec tout ça? Est-ce que pour toi, ça remet en cause qui je suis? Est-ce que pour toi, ça remet en cause ma bonté? Est-ce que pour toi, ça remet en cause mon amour pour toi? Est-ce que tu continues d'avoir foi en moi? Est-ce que tu crois que je suis toujours avec toi et que je suis sur ce chemin qui est difficile? Tu ne sais pas tout pourquoi, comme tes enfants, si tu en as, ne peuvent pas toujours tout comprendre. Je ne peux pas tout expliquer parce que tu ne peux pas tout comprendre, mais je suis là et je t'aime. Vraiment que tu puisses recevoir la main du Seigneur. Qu'on puisse prier maintenant les uns pour les autres. Peut-être tu es dans une situation de découragement. Tu peux t'adresser à ton voisin, ta voisine, pour qu'il prie pour toi. Ou peut-être que tu sens que quelqu'un qui est à côté de toi a besoin d'encouragement. Et tu veux prier pour cette personne. Qu'on puisse s'encourager maintenant les uns les autres. Qu'on puisse tout simplement poursuivre ce temps de prière. Voilà, on ne connaît pas les situations des uns et des autres. Sentez-vous libre. Si vous voulez rester seul et que l'on ne prie pas pour vous, ne pas forcément prier avec quelqu'un, restez seul, mais qu'on puisse les uns les autres s'encourager, prier à côté de la personne à côté de moi ou que je peux me déplacer vers quelqu'un pour prier, qu'on puisse maintenant prier les uns pour les autres. Et Dieu est aux commandes. Dieu est aux commandes de ta vie. Dieu est aux commandes de ta vie. Tu peux partager peut-être la situation dans laquelle tu es, si tu sens que tu en as besoin, si tu as envie de le faire, tu n'es pas obligé de le faire. Tu peux juste demander à ce que l'on prie pour être encouragé. Mais qu'on puisse être dans cet esprit de prière. Qu'on puisse laisser agir le doux murmure de l'Éternel. La présence de Jésus-Christ par son esprit qui est là maintenant et qui est en train d'œuvrer dans ta situation. Il est en train d'œuvrer dans tes circonstances. Je proclame, Seigneur, ta puissance. Je proclame ton œuvre par ton esprit. Je proclame ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu agis. Tu agis dans les circonstances de plusieurs maintenant. Merci parce que tu as agi dans les circonstances de personnes que nous connaissons. Seigneur, nous te remettons toutes nos situations, nous te remettons tous ces sujets de prière. Seigneur, nous proclamons que tu es aux commandes. Nous proclamons que tu es le maître de notre histoire. Nous proclamons que nous sommes au bénéfice de l'œuvre de Christ. Merci Seigneur parce que tu agis. Alléluia. Oui Seigneur, que tu ravives la foi. Que tu ravives la foi là où la foi a pu être abîmé, là où la foi a pu chanceler ou peut chanceler encore. Dans le nom de Jésus, je proclame un esprit de foi. Dans le nom de Jésus, je proclame un esprit de foi. Que tu puisses saisir cet esprit de foi dans ta situation. Alléluia.